Il était une fois trois filles en colère qui avaient décidé de s'engager pour la société. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Vincent, j'ai décidé de les engager. Je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames.
Bonjour, nous sommes le mardi 4 février et vous écoutez l'émission mensuelle Drôle de Dame sur Fréquence 7, votre radio toujours préférée. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, rappel, petit historique, Michel Barnier est devenu le mercredi 4 décembre le premier chef de gouvernement de la 5e République, renversé par une motion de censure après avoir engagé sa responsabilité. En effet, on s'en souvient, hein, il avait activé l'article 49.3 de la Constitution sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et ça n'est pas passé. Et donc, le 13 décembre, Emmanuel Macron nomme François Bayrou président du MoDem pour remplacer Michel Barnier. Et donc, une nouvelle fois, Emmanuel Macron a montré son mépris pour le résultat des élections législatives de juin 2024. Une nouvelle fois, il renonce à la souveraineté populaire. Et François Bayrou porte des valeurs et des propositions antisociales contre l'écologie, contre la solidarité. Je vais arrêter la liste ici. Alors la question essentielle, c'est la suivante. Combien de temps va-t-il durer ? Alors, on le voit, la 5e République est à bout de souffle. Les citoyens ne sont plus respectés non seulement dans leur vote, mais aussi dans leur vie quotidienne. La démocratie semble vaciller. Faut-il alors changer les institutions ? Limiter le pouvoir du président de la République, voire passer à une 6e République, c'est donc de tout cela dont nous allons discuter ensemble autour de cette table aujourd'hui. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, moi j'ai une petite remarque à établir, parce que souvent on entend les gens dire que la politique c'est compliqué, comme s'ils avaient bien intégré l'idée selon laquelle justement la politique était l'affaire de personnes dites compétentes. Or, ne faut-il pas redonner d'abord confiance aux gens en leur démontrant que justement les questions d'une vie digne leur appartiennent, et donc leur redonner confiance quant à leur capacité de réfléchir à une société plus juste, plus solidaire, qui se soucie des générations futures, par exemple, hein, en s'emparant de la question du dérèglement climatique, dont les populations partout dans le monde en souffrent. On n'a plus besoin d'aller bien loin pour s'en rendre compte, puisque les populations du nord de la France sont en train d'en subir les conséquences. Et donc, partant, les gens pourraient tout à fait être capables de redéfinir les nouveaux droits. Alors, Vincent, tu proposes justement de nous parler d'une expérience fort intéressante, me semble-t-il, venue d'un groupe de musique qui nous invite justement à nous saisir du temps long pour créer des liens sociaux. Et il me semble que cette expérience, justement, va ouvrir sur une question politique essentielle. Comment est-il possible de redonner du sens à nos institutions et donc les modifier sans liens sociaux et sans prendre donc le temps de débattre et de délibérer? Alors vas-y, raconte, Vincent.
Eh bien, bonjour à tous. Donc du coup, ce mois-ci, je voulais vous parler de changement avec un groupe de musique, Terre Noire. Ce nom dira peut-être quelque chose à certains d'entre vous, car nous avons pu voir ce groupe se produire à la salle Le Bourneau en 2019. Ils nous ont sorti il y a peu de temps leur deuxième album, qui sera accompagné d'une tournée un peu spéciale, et je vais vous expliquer pourquoi. Dans un contexte où notre société vit de profonds changements, où les enjeux sociaux et climatiques deviennent chaque jour plus présents, comment les artistes peuvent-ils encore être des vecteurs de liens, d'espoir et de réflexion? Terre Noire a décidé de prendre une nouvelle direction, de repenser la tournée en 2025, pour aller à la rencontre des territoires, des gens qui y vivent, mais aussi pour offrir des moments d'échange, de création et de résonance locale. La réponse de Terre Noire à ces questionnements? Le temps long, comme l'a dit Florence. En effet, il n'est plus question de passer rapidement et de faire un concert, puis de repartir à toute allure, non. L'idée ici, c'est de s'installer dans chaque ville traversée, de prendre le temps de rencontrer les habitants, de vivre le territoire. Comment faire vivre un concert dans un contexte où les liens sociaux sont souvent fragilisés? Eh bien, la solution, c'est de créer des rencontres humaines avant tout. Durant plusieurs jours, avant chaque concert, le groupe va organiser des ateliers d'écriture, des podcasts, des masterclass musicales et même des tables rondes. Le but, échanger, réfléchir ensemble, imaginer de nouvelles perspectives et de nouveaux horizons. Ces moments privilégiés permettront de redonner du sens au rôle de l'artiste et de se reconnecter avec la spécificité de chaque région. Et l'idée n'est pas seulement de célébrer la musique, mais aussi de remettre en lumière ce qui rend chaque territoire unique. Terre Noire veut se défaire du modèle de la cadence industrielle des tournées traditionnelles, où l'on enchaîne les villes à la vitesse de l'éclair. Ici, chaque état devient une immersion, une occasion de ralentir, d'échanger et de réfléchir ensemble. En collaboration étroitement avec les salles de spectacle, Terre Noire propose une toute nouvelle manière de concevoir la tournée, plus en phase avec les valeurs de solidarité, d'inclusivité et de durabilité. Ce n'est plus qu'une histoire de musique, c'est une invitation à réinventer ensemble notre manière de vivre sur cette terre, de repenser nos pratiques et pourquoi pas d'imaginer des horizons heureux pour demain. Alors préparez-vous à vivre une expérience différente, plus intime, plus réfléchie, plus humaine. Terre Noire vous invite à prendre le temps, parce qu'en 2025, l'urgence n'est plus simplement de jouer des concerts, mais bien de tisser des liens durables et sincères. Le Protégé Tour, qui porte le nom du coup de l'album, c'est l'occasion de redécouvrir le pouvoir de la musique, non seulement pour divertir, mais aussi pour connecter, pour partager et pour changer les choses. Alors je vais vous laisser avec un extrait de leur dernier album.
Et un fou au volant de la voiture, il tourne à droite, maman très à droite. Et un fou au volant de la voiture, il tourne à droite, il tourne à droite dur. Et un fou dans la voiture, et il tient le volant, il tourne à droite, il tourne à droite dur. Maman, et un fou dans la voiture, et il tient le volant, il tourne à droite, il tourne à droite, il tourne à droite dur. C'est pas de la maladresse, ça se voit que c'est pas de la maladresse. C'est le mal, est-ce que c'est le mal? C'est le mal, est-ce que c'est le mal ça? C'est le mal, c'est le mal, est-ce que c'est le mal ça? C'est pas de la maladresse. Dubaï n'est pas le paradis. Les stars ne sont pas sympathiques. Pas besoin de tout le temps paradis. L'enfer n'est pas le paradis. Où est le paradis? Casino gagne toujours à la fin. Les puissants veulent garder tout ce qu'ils ont. On se fait manger par des images. T'as pas besoin de la doudoune Prada. Et un fou au volant de la voiture, il tourne à droite, maman très à droite. Et un fou au volant de la voiture, il tourne à droite, il tourne à droite. Dieu, c'est pas de la maladresse. Ça se voit que c'est pas de la maladresse.
Et justement, on va sortir des virages trop à droite en s'interrogeant donc sur les pouvoirs politiques du président de la République. Alors Daniel, que penses-tu des pouvoirs donc de ce président de la République? Faut-il les limiter?
À l'heure actuelle, c'est vrai qu'ils sont vraiment très importants, accordés par la dernière Constitution. Alors que sous la 3e et la 4e République, le gouvernement dirigeait la politique de la nation et non le président. Ce président actuel sous la 5e République a des pouvoirs énormes. Alors par exemple, il nomme le Premier ministre, il peut dissoudre l'Assemblée, il peut recourir au référendum, il peut saisir le Conseil constitutionnel et nommer 3 de ses 9 membres, dont son président. Et puis au niveau il est le chef des armées. Donc ça aussi c'est très important parce qu'il a un pouvoir, c'est lui qui détient le pouvoir sur le feu nucléaire. Lui seul. Donc, ça paraît fou.
Ça signifie qu'il ne peut pas y avoir de discussion possible autour de ces questions-là. Alors.
Et oui, parce que ça veut dire que nos institutions sont vraiment, on peut dire, amoindries. Et par exemple, le Parlement, vous avez vu l'utilisation du 49.3, on se rend compte que finalement, c'est lui qui gouverne quasiment seul en imposant sa loi. Hein, il y a eu, je ne sais pas, 20-49-3 dans le dernier mandat. Et puis, il a la possibilité aussi de nommer beaucoup de gens, parce qu'il nomme des emplois civils et des emplois militaires dans l'armée. Les conseillers d'État, le chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres de la Cour du compte, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer, ça veut dire qu'il peut mettre des personnes qu'il choisit lui-même au poste clé du gouvernement. Donc, alors j'avais envie de conclure sur une petite phrase de Louise Michel, que je trouve assez extraordinaire, qui a été prononcée en 1883, et qui disait « Sans l'autorité d'un seul, il y aurait la lumière, il y aurait la vérité, il y aurait la justice. L'autorité d'un seul, c'est un crime. Ce que nous voulons, c'est l'autorité de tous. »
L'occasion donc pour nous effectivement de s'interroger sur le rôle des institutions et donc de ces modifications possibles. Alors à ton avis, hein, s'agissant donc des institutions, s'il faut les modifier, quelles seraient les trois premières mesures à prendre, si tant est ce soit possible d'en distinguer que trois?
Oui, c'est un peu compliqué parce que en fait, il y a énormément d'idées qui circulent et qui sont intéressantes. Ce qu'on constate, vraiment le constat général, c'est que le président de la République concentre beaucoup trop de pouvoir. Ça a entraîné tout le pays dans sa seule volonté. Les députés sont devenus des acteurs un peu témoins des décisions politiques. Et il nous semble qu'il faut mettre fin à cette espèce d'aberration, quoi, qui a atteint son paroxysme sous la présidence autoritaire de Macron. Ça, c'est clair qu'on a atteint des sommets.
Oui, ce que tu veux dire, c'est que l'Assemblée nationale devient une sorte de chambre d'enregistrement dans laquelle le débat est plus possible, quoi.
Exactement. Le débat ne compte plus, puisqu'on peut y mettre son 49-3 à effet de casser toute discussion. On a vu d'ailleurs récemment tout ce qui a été voté à l'Assemblée et qui a été balayé, ne serait-ce que par exemple au niveau des recettes, les propositions qui avaient été faites et qui avaient été acceptées et votées par l'Assemblée à la majorité.
Et en commission.
Et en commission, les deux, eh bien, a été balayé par le 49-3 de Barnier. Donc là, on se rend compte que c'est absurde. Alors après, au niveau du changement des institutions, on parle beaucoup de passer à une 6e République, ce qui voudrait dire éventuellement convoquer une assemblée constituante pour remettre à plat l'ensemble des institutions, parce qu'on se rend compte que quand même il y a beaucoup, beaucoup de choses. Elle a été bricolée, rebricolée, des changements à la marge, mais ce serait peut-être le moyen de refonder le peuple et qu'il puisse lui-même refaire complètement la constitution dans laquelle il veut vivre. Ça pourrait être très intéressant. Alors, convoquer une assemblée constituante, on peut imaginer, pour la lancer par exemple, convoquer un référendum et engager un processus constituant en formulant des modalités, parce qu'après, il faut savoir comment on fait venir les citoyens et les citoyennes. On devrait avoir besoin de poser des règles pour se dire, par exemple, les élus actuels ou les ex-élus des parlements et qui risquent de se représenter à d'autres pourrait être éliminé. Enfin, il y a vraiment une réflexion, une méthode à mettre en place qu'on pourrait proposer à un référendum au moment de lancer la convocation de l'Assemblée constituante. Voilà.
Moi, je voudrais revenir sur un point. Tout à l'heure, tu évoquais, hein, dans les possibles modifications d'institutions, finalement, de faire quelque chose qui aille un petit peu à l'encontre des super-pouvoirs, justement, du président de la République. Alors ça, moi, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup, parce que aux législatives 2024, les gens sont venus voter massivement. Ça faisait bien longtemps que le taux de participation à une élection n'avait pas été aussi élevé. Or, Macron, justement, en ne respectant pas le résultat des urnes, prend le risque de dégoûter à nouveau les individus pour que, justement, ils se détournent des urnes et faire en sorte à ce que celles et ceux qui ont quelques intérêts économiques à voter, viennent justement voter et, une fois de plus, laissent le peuple dans son ensemble, justement, à la maison et faire en sorte à ce qu'ils ne se mêlent pas de leur leur politique, justement, de leur vie. Et du coup, qu'est-ce que tu penserais et qu'est-ce que vous penseriez, de façon plus générale, de l'idée, justement, de mettre en place le vote blanc associé, justement, à une obligation de vote? Est-ce que ça pourrait être quelque chose de vertueux? ou pas.
Oui, en Belgique, par exemple, les gens sont obligés d'aller voter. Il me semble que c'est une bonne solution. On ne peut pas rester spectateur tout le temps. Parce que beaucoup de gens disent « Ouais, on n'est pas d'accord, il se passe plein de trucs » et ils ne vont pas voter. Donc ça, je pense que ce serait une solution. Alors les votes blancs, par contre, je n'ai pas bien compris l'importance du processus de compter les votes blancs. Peut-être que tu peux nous éclairer.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on impose le vote, c'est-à-dire que le vote devient obligatoire, il faut prendre en compte les votes blancs comme un vote qui dit quelque chose.
Okay. Ah oui, voilà.
Je n'ai pas le droit de voter, mais j'ai le droit de choisir... de voter blanc parce que rien ne me convient. Donc ça permet quand même aux gens de pouvoir s'exprimer et on peut réfléchir si le nombre de votes blancs est très important en se disant « Ah, on n'a pas les bonnes propositions ».
Ok.
D'autant plus que je me permets de rappeler qu'il y a quand même toute une génération de femmes qui s'est battue pour avoir le droit de vote et de voir aujourd'hui des jeunes femmes ne pas aller voter à des élections. Je trouve ça aberrant pour les générations précédentes qui se sont battues pour obtenir ce droit-là. Donc, en fait, oui, ça me paraît évident que ce vote blanc doit être reconnu et doit rendre le fait d'aller voter obligatoire, quoi.
Ok, donc du coup, le devoir de voter s'accompagnerait nécessairement, effectivement, de ce vote blanc, ouais, pour faire en sorte à ce que les individus puissent enfin aller voter pour quelque chose. Ne serait-ce que pour dire « je ne suis pas d'accord avec toutes les propositions » et non pas « contre », comme souvent on a l'habitude de le faire.
Et dans le cadre d'une constituante, c'est vrai qu'on peut imaginer plein de choses. Il y a des tas d'idées toujours qui circulent. On peut trouver les moyens au niveau des institutions d'obliger le gouvernement à prendre réellement en compte l'Assemblée, le Parlement. Chose qui n'est pas faite aujourd'hui. Si par exemple on abolit les procédures de vote forcé comme le 49-3, la vie parlementaire redevient possible. Un vote à la majorité redevient possible.
L'abrogation de la retraite à 64 ans, elle serait votée.
Eh oui.
Là, on empêche les députés de s'exprimer là-dessus. Et c'est, je suis désolée, c'est une violence.
Le budget aussi, ouais, avec les recettes qui avaient été votées et que le gouvernement Barnier a balayé. C'est-à-dire qu'il refuse ces recettes et il continue à ponctionner sur les plus pauvres tout en refusant d'accepter des recettes qui arrivaient à mettre le budget à l'équilibre et même à baisser le déficit.
Absolument.
Donc là, c'est un cauchemar. Je dis, c'est un cauchemar.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où, effectivement, on refuse la discussion, ou du moins si la discussion se termine par la conclusion qui consiste à dire « de toute façon, vous avez tort, c'est nous qui avons raison », la question du débat démocratique, effectivement, se pose. Et il me semble que le lieu par excellence où cette expression démocratique, justement, a lieu, c'est bel et bien l'Assemblée nationale. Et c'est dans le conflit des idées, justement, qu'on progresse aussi. C'est l'objectif étant, justement, de convaincre l'autre que ce qui est avancé est le plus juste possible. Alors, évidemment, ça suppose que, effectivement, on est... un horizon politique et même, je dirais, philosophique qui est porté par les députés. Et ça suppose surtout aussi qu'ils se tiennent à ce qu'ils disent aussi.
Ça suppose aussi de combattre notamment l'influence des lobbies. Parce que le Parlement est sous la pression des lobbies à l'heure actuelle. Et on peut dire que les lobbyistes, avec leurs cadeaux aux membres du gouvernement et aux députés, ça fait une pression qui ne ressemble pas du tout à ce que les députés ont ils écrivent des lois. On dit que c'est eux qui rédigent certaines lois et qui les proposent à des députés.
Absolument.
Qui les acceptent.
Et sans une virgule qui a été raturée, voilà. Telle qu'elle. Ouais, c'est vrai.
Juste pour revenir sur les deux premières questions, et moi, il y a un truc que je trouve aberrant encore en France et qu'on devrait abolir, c'est le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, excusez-moi, aujourd'hui, c'est le président qui nomme à la tête de ce Conseil qui veut. Et en fait, aujourd'hui, on a des vieux de droite.
Voire très vieux,
pour certains. Et aujourd'hui, en fait, ça bloque les institutions, complètement. Voilà,
exactement. Non, mais c'est quand on dit qu'il faut remettre à plat toutes les institutions.
En fait, est-ce qu'il ne nous manquerait pas une Louise Michel en 2025? Ce serait bien. En fait, c'est la rue qu'il faut reprendre. faut que les citoyens, avant la 6e République, faut que les citoyens leur fassent comprendre en haut que c'est fini, faut arrêter, stop.
Ah oui, ah oui, c'est ça, c'est vrai.
Et donc du coup, là, pour éviter une espèce de collision entre différents intérêts, une mesure, à mon sens, qui serait essentielle et sans doute efficace, c'est limiter aussi le cumul des mandats.
Absolument. Absolument. Le limiter, alors dans le temps et certainement aussi en nombre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se représenter indéfiniment au même mandat. Quand vous avez des maires ou des députés qui sont là depuis 30 ans, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi.
Une carrière entière. Ouais.
C'est-à-dire qu'il faudrait mettre fin à la professionnalisation de la politique. Parce que on essaye de faire croire aux gens qu'il faut avoir des compétences spécifiques, être un expert de ceci ou de cela, ce qui est totalement faux, parce que d'abord ceux qui arrivent au gouvernement ne le sont pas, la plupart du temps ils démontrent qu'ils sont particulièrement nuls sur les sujets qu'ils sont en train de traiter. Mais on se rend compte, quand par exemple on a eu l'exemple de la Convention pour l'écologie, pour le climat, où des citoyens se sont rassemblés, ont été rassemblés, se sont informés et ont fait des propositions qui ont été reconnues comme excellentes par l'ensemble de haut niveau, par les écologistes.
Absolument.
Donc on se dit, attendez, arrêtez de penser qu'il n'y a que vous qui êtes les sachants, et voilà.
Et du coup, effectivement, ce cumul des mandats qui pourrait être accompagné de rencontres justement avec les citoyens sous des formes équivalentes à celles de la Convention citoyenne du climat, puisque cette convention a fait ses preuves, mais qui suppose donc du coup d'être retenu, hein, c'est-à-dire que une fois que les 158 propositions ont été faites, il aurait quand même été non méprisant, je ne sais pas comment dire les choses, de la part d'Emmanuel Macron, justement, et donc de respecter ces propositions-là. Mmh. Or, ça n'a absolument pas été le cas. Donc du coup, ce qui pourrait aussi, à mon sens, faire revenir les gens dans la chose politique, et donc pour bien prendre conscience du fait que c'est leur affaire, c'est l'affaire de tous en fait, la politique, je pense qu'il faudrait mettre en place aussi la révocation des élus. Ça aurait au moins une vertu, celle des propositions. Je m'explique. Un élu, par exemple, même pour des municipales, un élu qui fait un ensemble de programmes, de propositions, il aura intérêt à faire des propositions réalistes et donc réalisables, parce qu'à tout moment, il saura qu'il peut être révoqué, justement, par un ensemble de citoyens. Alors, le nombre, il faudrait le décider. À quel moment, à mi-mandat, ou je ne sais pas quand, pourquoi pas, mais il faut absolument quand même que... pour moi, c'est un moyen, justement, de faire en sorte que l'élu puisse avoir des comptes à rendre.
Alors,
pas juste
faire
des promesses.
C'est l'idée du RIC, du référendum d'initiative populaire, citoyenne, donc, qui était entre autres proposée par les Gilets jaunes, qui concerne, oui, un référendum révocatoire des élus qu'il faudrait mettre en place, mais tous les élus, à tous les niveaux, mais qui concerne aussi la possibilité pour les citoyens de proposer des lois. C'est pas seulement censurer un élu, mais ça peut être aussi la possibilité de proposer ou d'abroger une loi, voilà, avec un certain nombre de personnes.
Très bien, super, belle perspective pour, pourquoi pas, une 6e République. Mais en attendant de passer à cette 6e République, je crains qu'il faille qu'on revienne à la 5e et à sa triste réalité. Alors Claude, qu'est-ce qui nous attend ?
Oui, c'est vrai que là vous m'avez fait partir dans les... Alors revenons à la réalité qui est très dure. Dans la 5e République moribonde, la motion de censure est le principal moyen dont dispose un Parlement pour montrer sa désapprobation envers la politique d'un gouvernement et le forcer à démissionner. Autrement dit, pour témoigner de sa défiance envers le gouvernement en place. La Macronie s'est répandue sur les plateaux en racontant des balivernes sur le coût et les effets de la censure du gouvernement Barnier. Elisabeth Borne, Lucky Luke du 49-3, a osé dire que les cartes vitales seraient bloquées, remboursement de santé aussi, et les fonctionnaires pas payés. Ils ont honte de rien. Amélie de Montchalin, ministre chargée des comptes publics, s'inquiète du coût financier de la censure. Elle oublie de préciser que le gouvernement est responsable de 1 000 milliards de dettes. La nomination de François Bayrou nous prépare des lendemains douloureux. Il a repris le budget Barnier, durci par 20 milliards d'économies. En fait, je crois que c'est 12 ou 13, 20, j'ai un peu exagéré. Oui, mais ça, depuis que je vis dans le Sud, je grossis un peu le trait. En commission mixte paritaire, le 31 janvier, les macronistes, la droite et les socialistes viennent de voter la baisse de 111 millions de l'aide médicale d'État. Lamentable. Le PS a exigé une hausse du SMIC, 47 centimes par jour.
Magnifique.
Bayrou a refusé. On est prié de ne pas sourire. Immigration. La France submergée, comme l'a déclaré le Premier ministre, c'est faux. L'immigration représente en France 8% de la population. En Autriche, 17%. En Suède, 8,7%. Au Royaume-Uni, 13%. En Espagne, 15%. La circulaire Retailleau. La circulaire Retailleau, diffusée aux préfets, appliquée depuis le 24 janvier 2025, remplace la circulaire Valls 2012 sur la régularisation des étrangers en situation irrégulière. Il y a en France des milliers de femmes sans papier. D'après Mediapart, elles seraient 205 000, chiffre des bénéficiaires de l'AME. Et on vient de leur retirer 111 millions. Mauvais signal. En Moselle, une collégienne de 13 ans, arrêtée au sein de son collège par des gendarmes zélés, est reconduite à la frontière belge avec sa mère et son petit frère. Originaire du Burkina Faso, cette mère a fait une demande d'asile en Belgique. Il y a comme un petit goût de rafle.
Oui, et il faut quand même rappeler que cette action était quand même illégale. On aurait aimé un peu plus de réaction.
Absolument. Les gilets jaunes. 6 ans après, le policier qui a éborgné Jérôme Rodriguez en 2019 sera jugé devant une cour criminelle. Les noms de ceux qui étaient au pouvoir, Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Christophe Castaner, Didier Lallement, nous ne sommes pas dans le même camp, disait-il. Ni oubli, ni pardon.
Ben, merci beaucoup, Claude, pour ces douloureuses informations. Alors voilà, drôle de dame, c'est fini pour aujourd'hui. Mais avant de vous quitter, je voudrais dire un immense merci à Sylvain qui fête ses 25 ans d'antenne. 25 ans déjà. Sylvain, fidèle au poste, toujours là pour régler nos petits, voire gros soucis techniques. Alors, félicitations Sylvain et vraiment merci, un grand merci pour tout
à toi. Un immense merci.
Merci à vous.
Merci, merci.
T'es notre leader incontesté des ondes.
Bon anniversaire.
Bon anniversaire.
Merci.
Alors, on se retrouve le mois prochain et vous laisse sur ces paroles mises en musique par Dana Kill. Et je vais quand même reprendre une belle phrase. Quand la volonté du peuple est bafouée, la démocratie balbutie.
Sentiment, choisir leur gouvernement. Ils ont compris qu'on les abuse. Un jour sur deux, on les accuse. On se fout de leurs sentiments. Le malaise est évident. L'ordre et l'argent nous catégorisent et divisent les gens. Y'a ceux qui vivent avec, ceux qui vivent sans. Tout est si mal distribué. La tension monte, la société est hiérarchisée. Regardez l'exemple qui est montré. La démocratie balbutie. Quand la volonté du peuple est bafouée, la démocratie balbutie. La constitution sera révisée. La démocratie balbutie. Et quand la rue commence à s'embraser, la démocratie balbutie. La politique est travestie, la confiance est un vestige. On a attendu trop longtemps. C'est trop de gouvernements. Ils jettent l'essence dans l'incendie. Un jour c'est non, l'autre c'est oui. On nous balade ouvertement. Le malaise est grandissant. L'or et l'argent décident à la place des gouvernements. Les bulletins de vote ne valent que du vent. L'espoir est mieux distribué. La fortune, la société.
j'étais réhiérarchisé. Regardez l'exemple qui est montré, la démocratie balbutie. Quand la volonté du peuple est bafouée, la démocratie balbutie. La constitution sera révisée, la démocratie balbutie. Et quand la rue commence à s'embraser, la démocratie balbutie.